Et dis Mimi, tu viens à la piscine avec moi ?
Ah non, je peux pas, j'ai agité du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Parfois, les îles nous paraissent si loin, comme des petits bouts de terre perdus au milieu de l'océan, des sortes de cartes postales qu'on regarde sans vraiment les toucher. Mais quand un cyclone comme Chido traverse Mayotte, tout devient beaucoup plus proche et plus humain. C'est ce qui s'est passé le 14 décembre dernier. Derrière les plages, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des vies, des maisons qui s'effondrent, des visages marqués, mais aussi, et heureusement, des élans de solidarité qui viennent jusqu'à nous, ici à Laval. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une voix qui compte, une voix qui raconte et surtout qui agit, celle de la présidente de l'association Mayotte Fleury 53, Moussi Amada Mkolo. Aujourd'hui, j'avais envie que l'on découvre cette culture mahoraise qu'on connaît trop peu et de ce lien qui unit les gens ici et là-bas et de ce que l'avenir peut porter, même après la tempête. C'est la dernière émission pour cette année 2024 et elle se terminera avec la chronique de Donatien. Bienvenue à vous, amis auditeurs, vous écoutez l'Agité du local, je suis Margot et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Votre émission quotidienne commence maintenant. L'Agité du local sur l'autre radio.
Moi c'est Madame Amada Mkolo Moussi. Je suis la présidente de l'association Mayotte Fleury 53 et j'habite à Laval depuis 2012 et l'association a été créée depuis l'an 2013.
Et alors en 2013, quand l'association se crée, quelles sont les missions qu'elle se donne principalement ici à Laval ?
Les principales missions, c'est pour montrer notre culture, pour que ça ne s'éteigne pas parce que beaucoup, ils voyagent, ils viennent ici, après ils mettent des enfants ici, mais les enfants grandissent sans notre coutume. Du coup, on ne veut pas perdre notre culture et notre coutume.
Alors aujourd'hui, à l'heure où on se parle, nous sommes le 24 décembre. On se trouve dans la salle 3 du Palindrome à Laval. Vous récoltez des dons suite au cyclone qui s'est abattu sur l'archipel de Mayotte le 14 décembre dernier. Comment est-ce que vous avez souhaité réagir ? Comment est-ce que vous avez rebondi directement en fonction des besoins qu'il y a sur place ?
En fait, on regardait les infos, mais on ne voyait pas grand-chose. Mais dans les Facebook, dans les réseaux sociaux, on entendait beaucoup de choses et on voyait les images aussi des catastrophes qui se sont passées. Et puis là, maintenant, on arrive à avoir un peu de réseau. On demande aux gens là-bas qu'est-ce qu'ils ont besoin parce qu'on a vu que tout est ravagé.
Justement, certains de vos proches se trouvent à Mayotte. Quels sont l'état des communications sur place?
Oui, j'ai ma mère et mon père et ma sœur aussi là-bas. Et depuis que ça a commencé, j'ai jamais entendu leur voix jusqu'à présent. J'entends seulement qu'ils vont bien. Il y a eu un dégât matériel, mais ça va pour eux. Mais je ne sais pas trop si ça va vraiment, mais physiquement, mentalement, ça ne va pas. Voilà.
Je le disais, aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Vous organisez une collecte de dons ici au Palindrome à Laval. Alors, comment ça s'organise? Quels sont les besoins?
Alors là, on a commencé lundi et on va aller jusqu'à vendredi. Et là, on aura besoin des produits alimentaires, tous les produits secs, les boîtes de conserve, les laits, les couches des bébés. Et puis, les vêtements, on n'aura plus besoin pour... Les grandes personnes, mais pour les bébés, on peut toujours prendre, et les adolescents. Et on fait aussi les collectes financières. Oui, on aura besoin, oui, les cagnottes, pour pouvoir acheter le conteneur ou bien pour déplacer les camions, pour amener les colis.
Et donc cette cagnotte, c'est sur Litchi, je crois, où est-ce qu'on peut la retrouver?
Oui, sur Litchi. Et ici, devant la porte aussi, on a mis un petit carton ici.
Alors, en cette semaine de Noël, est-ce que vous recevez beaucoup de solidarité, beaucoup de soutien de la part des Lavallois?
Oui, ils sont beaucoup généreux et je les remercie beaucoup parce qu'ils sont venus, ils sont gentils, ils nous ont amené plein de choses.
Évidemment, les besoins sur place sont particulièrement urgents. Comment est-ce que seront acheminés ces dons jusque là-bas? J'imagine qu'en termes d'organisation, ce n'est pas forcément évident.
Oui, c'est très difficile en ce moment, mais... On se serre les coudes, on va prendre les camions d'abord, après ça va être ramené avec les containers, ça va passer par le bateau et par la mer. et ça va arriver à Mayotte.
Cette semaine de collecte, des bénévoles sont présents sur place de 9h à 22h. Alors c'est énormément de travail, combien est-ce que vous êtes à récolter, à travailler sur cette récolte de dons?
Oui, c'est énorme, tout à fait, mais hier on a réussi jusqu'à 21h, on est tombé KO. Oui. On a bien travaillé depuis lundi, on a bien emballé. Et puis, il y a des gens qui sont dans l'association, il y en a qui ne sont pas dans l'association, mais qui viennent quand même. On scotche les cartons, on range les denrées, on range les habits aussi.
La première étape aujourd'hui, c'est cette collecte de dons. Est-ce que vous imaginez déjà des choses pour l'avenir, d'autres actions, ou pour l'instant, vous attendez de connaître les besoins qu'il pourrait y avoir sur place?
Peut-être. Pour les constructions de ce qu'il y a là-bas, mais on a dit que on a parlé avec la mairie un peu qu'ils veulent qu'on s'organise et puis avec les Comoriens, on va essayer de faire une soirée pour faire des collectes.
Alors justement, la ville de Laval et Laval Agglo sont solidaires de la population mahoraise. Ils ont indiqué que des délibérations au sujet d'un soutien potentiel financier seront proposées au vote des élus lors des prochaines instances en 2025. Laval et Laval Agglo sont également très présents auprès de vous. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous vous organisez? Quels sont vos échanges?
Oh, ça va bien parce qu'eux, ils viennent, ils passent, ils demandent si tout va bien, si on a besoin de quelque chose. Eux aussi, ils passent des infos à d'autres associations.
Un grand nombre d'associations se mobilisent sur l'ensemble du territoire français pour apporter son soutien justement à Mayotte. Est-ce que vous êtes vous aussi en contact avec ces autres associations ou finalement est-ce que chaque association apporte un peu ce qu'elle peut de son côté?
Oui, oui, il y en a à Rennes, il y en a à Le Mans, il y en a à Alençon, il y en a pas mal dans la France.
Et alors cette soirée qui sera potentiellement organisée avec Laval ou Laval Agglomération, est-ce que quelque chose se dessine un petit peu? Ce sera probablement en janvier 2025.
On ne sait pas encore vraiment parce que là on a le cœur un peu serré. On n'est pas encore bien joyeux, on attend un petit peu quand tout le monde sera rétabli.
Justement, j'ai pu le dire un peu en introduction de cette émission, la culture mahoraise est finalement très peu connue ici. L'objectif de l'association Mayotte Fleurie 53, c'est initialement de partager cette culture, de la faire connaître, de la transmettre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous auriez envie de nous partager aujourd'hui?
De la culture mahoraise, ben, c'est pour qu'on ne perde pas nos traditions. Une culture mahoraise, ça veut dire les danses, tout ce qui est culinaire, voilà, tout ça. Et les beautés mahoraises aussi, parce que les femmes mahoraises, ils se font pas belles comme les Européens. Ils mettent des masques de beauté, les jasmins.
Il y a donc des danses typiques qui appartiennent vraiment à la culture mahoraise.
Oui, il y a les danses traditionnelles, il y a les chakacha, les mbiwi. C'est souvent les femmes qui les dansent, mais après il y a des danses mixtes aussi avec les hommes. C'est souvent pratiqué pendant les cérémonies des mariages.
On vient de dire quelques mots sur les danses traditionnelles mahoraises, mais vous avez aussi mentionné juste à l'instant du coup une partie plus culinaire aussi qui se démarque, qui a sa propre identité.
Quand vous entendez le voulé, c'est le barbecue. Les barbecues, les Mahorais adorent le barbecue et les brochettes. Oui, c'est les bananes frites ou bien les bananes grillées avec les brochettes et un bon piment. En fait, on fait le piment à part, mais on fait frire les bananes et on fait griller la viande de bœuf et les ailes de poulet, le mabawa, on dit.
Alors, quelque chose m'intrigue. Vous avez parlé tout à l'heure de beauté mahoraise. Il y aurait des routines un peu différentes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer?
Oui, il y en a beaucoup. Parce qu'ici, déjà, il fait froid. On n'a pas trop envie de faire ça parce que nous, on les met quand il fait très chaud, c'est pour protéger notre peau et pour protéger avec le soleil. Après, il y a les masques pour la journée, il y a les masques pour la nuit, pour séduire nos maris.
Alors quand on parle de masques, à quoi est-ce que ça ressemble pour qu'on visualise peut-être un peu mieux?
Des masques au bois de santal, on l'applique sur le visage. Un bois de santal, on le frotte, après on le met sur le visage. Mais la journée, on le met un peu plus épais. Mais la nuit, on fait avec des fleurs, en forme de fleurs, ou bien tout fin. C'est comme quand vous mettez vos fonds de teint. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais les femmes mahoraises, ils vont au lit en beauté.
Et alors qu'en métropole, on a plutôt tendance justement à faire tomber le masque une fois qu'on se couche. En tout cas, on se démaquille.
Voilà, vous vous démaquillez. Nous, on se maquille pour monter au lit.
Là, on parle ensemble de patrimoine culturel. J'imagine aussi que d'un point de vue architectural, il y a eu des pertes du coup considérables avec le cyclone Chido.
Ah, là-bas, il n'y a plus rien qui reste. Tout est dévasté. C'est vraiment, vraiment, tout est parti. Tout est parti. Ceux qui tiennent, c'est vraiment quelques habitants en béton. Oui, mais tous ceux qui sont en bois, en tôle, tout est parti. Même les arbres sont tout cassés. Parce que d'habitude, on voit plein de fruits à pain, des bananiers. Tous les bananiers se sont envolés. Il n'y a plus rien du tout.
On peut vraiment parler de catastrophe naturelle. Est-ce que l'archipel a déjà connu ce type d'événement?
Moi, personnellement, oui. C'est la première fois. Mais c'était déjà venu une fois... 1884, quelque chose comme ça. C'était un grand cyclone aussi, un cyclone Camis. Mais celle-ci, c'est plus dangereux que l'autre, en fait.
J'ai pour habitude de dire et de penser que l'associatif est une forme d'engagement. Quand vous avez décidé de lancer cette collecte de dons, il a fallu s'organiser un peu dans la précipitation. Mais en même temps, ça avait du sens. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Finalement, c'est un peu une manière de dire qu'on a tous cette capacité, cette force de rebondir, de s'impliquer et de créer une action solidaire.
En fait, lorsque j'ai regardé, j'ai réfléchi et puis j'ai dit, ben, comme toutes nos familles sont là-bas, j'entends tout, à chaque fois je vais vers les autres, ils me disent, j'ai pas de nouvelles de mes parents, j'ai pas de nouvelles de mon tonton, j'ai pas de nouvelles de mes enfants. Ça m'a blessée en fait. Puis j'ai dit, vaut mieux qu'on se regroupe et se tenir la main. Et voilà, on envoie quand même quelque chose, même si on ne sait pas leurs nouvelles là-bas, mais on envoie quand même. Même si ce n'est pas eux qui vont les trouver, mais c'est quelqu'un d'autre, mais on envoie. Ça va aider.
Madame Colo, vous avez grandi, vous, à Mayotte. À quel âge est-ce que vous êtes arrivée en métropole?
Je suis arrivée ici à l'âge de 20 ans, en métropole, pour faire mes études ici. Après, lorsque c'est fini, je me suis installée. J'ai bien aimé... Il y a une côté que j'aime bien quand même en France, mais c'est le froid que je déteste le plus.
Alors justement, est-ce que vous auriez un souvenir particulièrement marquant à nous partager de ce que vous viviez avant vos 20 ans, quand vous étiez encore à Mayotte?
À Mayotte? Ah oui, c'est très convivial, les gens sont chaleureux et puis il y a beaucoup de choses. Hein. Là-bas, la vie est dehors. Dès que tu te lèves le matin, il fait beau, tu entends les coqs chanter, les chèvres qui pleurent, les poules qui... Voilà, il y a une belle paysage, ça donne envie de courir partout dehors.
Et alors, pour le coup, en termes de saison à Mayotte, c'est très différent d'ici?
Oui, très, très différent. Là-bas, il fait tout le temps chaud. C'est tout le temps 31 degrés, 30 degrés. Mais ici, ça fait déprimer.
J'imagine que quand on arrive en métropole, il y a tout un temps justement pour s'acclimater. C'est le cas de le dire.
C'est pas du tout évident. Parce que moi-même, j'aime pas trop le froid. Mais ce que j'aime en France ici, c'est la façon de vivre ici que j'aime bien. Voilà. Mais vraiment, la mentalité d'ici, c'est... Chacun reste chez soi, là, j'aime pas trop. Il faut savoir changer ça, parce que...
Justement, tout à l'heure, vous me disiez que quand la journée commence à Mayotte, finalement, tout se passe dehors. C'est peut-être plus une habitude, plus fluide, plus évident, là-bas, dans la culture, d'aller vers les autres.
Voilà, même si c'est quelqu'un que tu connais pas, tu vas facilement vers eux pour lui demander comment tu vas. Tu rentres dans la maison sans toquer, tu peux dire, ah, comment vous allez dedans? Voilà, pourtant les gens ne se connaissent pas. Hein. Voilà, ou bien je veux de l'eau chez toi, là, on te donne de l'eau, tu pars. Ou bien dès que la personne entre, tu amènes à manger, tu le sers à manger. C'est souvent comme ça.
Il y a plus de générosité, vous vous trouvez là-bas, par exemple?
Beaucoup, oui. Par contre, ici, si tu n'as pas sonné, si tu n'as pas téléphoné avant, tu ne peux pas. Tout est calculé ici.
Depuis que vous êtes arrivée en métropole, est-ce que vous avez pu retourner voir votre famille régulièrement?
Non, c'est trop cher le billet d'avion. Il faut dire à Air Austral de descendre les billets d'avion parce que c'est trop trop cher. Si tu n'as pas 1200 en poche, tu ne peux pas rentrer, hein. Tu ne peux pas y aller. Et surtout avec les enfants encore, j'étais partie en vacances en 2021, j'ai payé 5000 euros, juste avec mes trois enfants.
Alors le but de l'association était justement de recréer ces moments de partage ici, de continuer à transmettre cette culture. Est-ce que vous avez le sentiment d'arriver à créer ce lien que vous espériez ici?
Oui, surtout en été, oui. Parce qu'en été, on se déplace, on va vers les familles, on va rendre visite les copines. On arrive à se regrouper, même si c'est dans la maison, des fois quand il fait pas beau. On essaye de regrouper et de mettre la musique, chanter, manger, danser.
Finalement, on se rend compte qu'on connaît très peu ici en métropole la culture mahoraise. Je me posais également la question du niveau de vie là-bas. Qu'est-ce que vous pourriez m'en dire?
Très, très cher par rapport à ici, hein. Oui, surtout les nourritures, je trouve que c'est très cher là-bas parce que quand tu rentres dans les magasins, tu vois les œufs. Ici, on peut les avoir 3 euros comme ça, mais là-bas, c'est 9 euros ou 10 euros. C'est très, très cher. Mais nous, les Mahorais, on se nourrit plus tous les produits locaux que dans les magasins. C'est maintenant que les jeunes de maintenant, ils commencent à faire comme les Européens. Ils vont dans les magasins, mais c'est toujours plus cher. C'est trop cher pour faire les courses au magasin.
Et alors, le monde du travail, là-bas, est-ce que vous le ressentez différent par rapport à celui que l'on connaît, nous, ici?
On travaille, c'est un peu comme ici, sauf que c'est un peu plus lent. Le rythme est lent, vu que là-bas, c'est chaud, donc c'est lent. Mais ici, c'est froid, tout le monde court tout le temps.
C'est quelque chose que j'ai pu évoquer plusieurs fois dans cette émission. On est un peu dans une course effrénée dans nos quotidiens. Ici, dans une sorte de course à la performance, à l'organisation à tout prix. C'est intéressant de voir qu'il existe d'autres façons de faire encore aujourd'hui, que c'est encore possible.
Et là-bas, on prend plus le temps pour vivre. Ici, on est tout le temps en train de courir, stressé en fait.
Est-ce que la différence existe déjà à l'école pour les enfants? Est-ce qu'il y a un rythme différent aussi qui leur est proposé?
Par exemple, si un enfant qui sort de là-bas, qui vient ici, il n'arrive pas à suivre. Parce que ça va vraiment très très vite. Même pour parler avec les gens, ils parlent très vite. Nous, on prend vraiment notre temps pour discuter, pour apprécier. C'est comme ça. C'est très précieux de parler avec quelqu'un, de prendre son temps, d'écouter l'autre aussi.
Si vous pouviez envoyer un message aux habitants de Mayotte, là, aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait?
Si je peux envoyer un message, j'aimerais qu'ils soient courageux, qu'ils restent forts et soudés. Et s'entraider pour nettoyer les villes et ne pas se décourager parce qu'on est avec eux aussi, même si on est loin, mais on est avec eux.
Et vous, justement, quels sont vos espoirs pour les semaines, les mois à venir? On imagine que toute cette reconstruction va forcément prendre du temps.
Oui, ça va prendre beaucoup de temps parce que moi, je suis née en 82. J'ai vu la différence de 82 jusqu'en 2024. J'ai vu qu'il y a beaucoup de différences, ça a beaucoup changé, il y a eu déjà beaucoup d'évolutions. Et là, tout d'un coup, tout a été ravagé. Mais là, j'ai l'impression qu'on vit comme vraiment en 82. Voilà, tout le monde va chercher de l'eau à la rivière, tout le monde va aller à la campagne pour cultiver, pour pouvoir avoir quelque chose à nourrir parce qu'il n'y a rien.
On est arrivé dans une époque, en tout cas ici en France, en métropole, dans une époque où tout est accessible facilement via le numérique, via la mécanisation. On n'est plus tellement habitué à autre chose. Et alors quand on perd tout ça, on est très rapidement démuni.
Oui, voilà. Et je trouve ça dommage parce que si on enlève tout ce qu'on a trouvé avant nos parents, on aime bien la facilité, mais la facilité, ça part vite en fait. Voilà, par exemple, à Mayotte, avant, il n'y avait pas l'Internet, on écrivait, on se bouquinait. Mais maintenant, comme il y a l'Internet, on regarde tous sur Google, on fait les recherches vite fait comme ça, c'est fini. Mais là, il n'y a plus d'Internet, ben, on est perdu, on se sent perdu, on voit comme si la vie est finie. Pourtant, la vie est là. On ne prend plus la vie, en fait, comme avant, on se côtoyait, on parlait plus avec les autres, mais maintenant, on s'enferme avec l'Internet. Du coup, on perd beaucoup de choses, quoi, des valeurs des autres aussi.
Pour terminer, j'ai envie de vous demander comment vous allez. On imagine que le moral n'est pas au plus haut. D'ailleurs, est-ce que vous auriez un message pour l'auditeur ? Peut-être qu'il peut rejoindre l'association et vous soutenir pour les prochaines actions.
Voilà, j'oublie un peu la peine. Quand je travaille là, je trouve que ça me met en action. Et puis, je dis que je me rends utile, je suis utile. J'essaye de faire quelque chose quand même pour ne pas stresser, pour ne pas rester sans rien faire et penser toujours que ce que j'ai fait, ça va aboutir à quelque chose.
En tout cas, merci beaucoup Moussi et Madame Colo d'avoir pris le temps d'échanger avec nous, avec l'agité du local aujourd'hui. Merci beaucoup et bon courage. L'agité du local sur l'autre radio. Dans quelques instants, nous écouterons la chronique de Donatien. Avant ça, on va faire une pause avec l'artiste catalane Judith Nederman en duo avec Isaro. On écoute son titre « La meva lengua ».
El txorbat daukat barruan Zukere badauka zupat Txikia zela ziotena Baina niri ematen ditena
Yeah.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. C'est le moment maintenant pour nous d'écouter Donatien. Il a cet art rare de raconter des histoires, une plume bien à lui, un temps qui suspend le nôtre et une voix qui est devenue essentielle à cette émission. C'est avec lui que l'on a la chance de terminer ensemble cette année 2024.
Goutte, gouttelette de pluie, qui ne connaît pas cette comptine ? Goutte, gouttelette de pluie, mon béret se mouille. Goutte, gouttelette de pluie, mes souliers aussi. Le 18 septembre 2001, Donatien fêtait son 4e anniversaire. Bon, n'importe quoi. Le 18 septembre 2001, Donatien fêtait son 44e anniversaire. Pleuvait-il ce jour-là ? Probablement les nuages pleuraient-ils la disparition de celle qui a écrit les paroles de cette comptine, Francine Coquimpot, autrice compositrice de plus de 500 chansons françaises, dont la célèbre « Colchique dans les prés » qui fleurissent à la fin de l'été. Il pleut, il pluviote, il bruine, il serine, il chagrine, autant de verbes pour exprimer le désagrément de ce crachin sur nos joues roses et fraîches. Les expressions sont souvent régionales, mais les nuages qui viennent de l'ouest dans un régime dépressionnaire ont transporté ces locutions dans tout l'hexagone. S'il boucaille en Bretagne, où c'est bien connu, il ne pleut que sur les cons, dans le Berry si cher à George Sand, il brasine, il berniasse ou il broue, tout simplement. En Alsace, il bise. Avouons que cette dernière est plaisante et ne nous découragera pas de sortir du studio. En revanche, s'il pleut à verse, s'il tombe des cordes ou des hallebardes, mieux vaut rester à l'abri que de se retrouver trempé comme une soupe. Il pleut, c'est pas ma faute à moi, chantait Jacques Brel qui se plaignait d'entendre la rue pleurer, mais qui retrouvait son sourire auprès de Samy et se fichait bien alors de la pluie qui tombait sur les grands boulevards, comme un certain Sacha Distel qui, sous la pluie, ne bronche pas, garde le moral, puisque comme tout le monde le sait, après la pluie vient le beau temps. Goutte, gouttelette de pluie, depuis le déluge qui permit à Noé de sauver les pandas et à la colombe de se poser sur l'olivier, depuis Georges Brassens qui trouva le bonheur sous un coin de parapluie, Donatien regarde la pluie bienfaisante, en sachant bien que lorsque les nuages auront disparu et quand Gene Kelly aura remisé ses claquettes, le soleil brillera dans les cœurs s'ils sont prêts pour l'amour.
I'm singing in the rain, you're singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Thank you.
dancing and singing in the rain.
C'était Singing in the Rain de Jane Kelly. Agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Moussi, à Madame Colo d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à Donatien pour cette dernière très belle chronique pour l'année 2024. Votre émission quotidienne s'arrête ici. Alors à 21h pour cette soirée de réveillon, sachez que vous écouterez Frères de Chaussures, une émission sur le rap français qui nous est proposée par Fatshu. Nous, on se retrouvera jeudi pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Et alors nous serons avec Sophie Kurt du Zoom à Laval et elle nous parlera de la nouvelle exposition géniale qui s'est installée dans ses murs. D'ici là, embrassez la magie des derniers instants de 2024, faites le bilan avec tendresse et non avec regret et portez en vous l'espoir d'un avenir peut-être plus doux. Et ensemble, s'il vous plaît, continuons à faire le bien.
Bon ben Mimi, on dirait que c'est fini. Oh ben, c'était bien, hein.